Merci. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur France Culture avec le journal de 22h. La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Grégoire Difior et prise de son assurée ce soir par Élise Le, réalisation David Jacuboviez. Ce soir, Fabienne Pasco, Lucille Como, Jean-Christophe Brianchon sont autour de cette table pour parler de Cap au pire, de Samuel Beckett, avec Denis Lavant, mise en scène Jacques Ozinski, actrice, texte et mise en scène de Pascal Rambert et Singing in the Rain, mise en scène par Robert Carsen. Il y aura bien sûr des cadeaux, c'est une circonstance, mais nous c'est tous les jours. Des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition de Camille Henrot jusqu'au 7 janvier au Palais de Tokyo à Paris. Une dispute qui s'ouvre avec un spectacle exigeant, un seul en scène sur un texte non théâtral, Cap au pire de Samuel Beckett avec Denis Lavant, dans une mise en scène de Jacques Ozinski. Après avoir rempli le théâtre des Halles dans le Hof d'Avignon cet été, où il était créé, il se donne actuellement dans la petite salle de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, une salle peu utilisée, ce qui est quand même dommage parce que c'est un bel écrin. Cap au pire, l'un des derniers textes de Beckett, dont on cite généralement ce passage fameux « Essayez, ratez, essayez encore, ratez encore, ratez mieux ». Comment donner à entendre ce texte fait pour être lu, un texte aride, plein de répétitions, d'avancées minimes. Nous en parlons après avoir écouté le teaser, c'est comme ça qu'on dit maintenant, du spectacle.
Le vide étroit tout entier. Nulle tache brouillée, tout net, net obscur, trou noir béant sur tout, absorbant tout, déversant tout, rien et pourtant une femme.
Voilà le très court extrait dont nous disposons, parce que c'est une longue traversée, pourtant que cette traversée vers le cap au pire. Lucille Como, pour commencer.
Oui, vous le disiez, c'est un petit roman et en fait ça va très très bien sur une scène de théâtre et notamment ça, c'est totalement complémentaire avec d'autres textes de Beckett qui sont des textes de théâtre. Et ce qui est très beau dans ce spectacle, c'est que alors qu'il n'y a qu'une personne sur scène et que c'est un spectacle assez court, il y a très peu d'effets, on entend tout le théâtre de Beckett. On entend fin de partie, on entend évidemment Minnie avec son corps enterré jusqu'au tronc en fait. Qui n'est plus qu'un tronc avec des bras. On entend aussi Godot avec les silhouettes de vieillards. Et ça c'est pour ça que c'est un spectacle réussi aussi. C'est parce qu'il évoque d'autres textes que lui-même. Alors pour décrire un peu le dispositif, il est vraiment minimal, hein. Puisque Denis Lavant est seul, vous le disiez, il est vêtu tout de noir, il est absolument statique, debout, les mains contre les jambes, en fait, les mains le long du corps, pendant une heure et demie, avec derrière lui, alors je sais pas exactement comment c'était à Avignon, moi je l'ai vu à l'Athénée, un rideau qui laisse entrevoir derrière des petites lumières, dont on comprend qu'elles sont quand même associées à des thèmes, même s'il n'y a pas vraiment de thème dans ce texte, à des motifs. Du texte, voilà, qui s'allume et qui clignote à certains moments. Et le texte est dit sur le même ton que ce qu'on a entendu dans ce teaser, c'est-à-dire un ton qui est assez monocorde et en même temps très musicale, avec, je pense, un souci du texte qui est de l'ordre de la partition, presque, puisque Denis Lavant utilise toujours exactement les mêmes intervalles, qui sont des octaves d'ailleurs la plupart du temps, pour dire ce texte. Je pense que c'est pour lui aussi un moyen de se le rappeler. C'est une énorme performance, je pense, pour un acteur, et il relève ça, ce défi-là, avec brio, parce que c'est un texte difficile, qui avance en reculant, en fait, puisqu'il s'agit de dépeupler le monde par le langage. Donc c'est comme une sorte de genèse à l'envers. C'est un texte difficile à écouter. J'avoue avoir parfois perdu le fil, et je pense que c'est difficile de perdre le fil et de se raccrocher, parce que comme ça se présente un peu comme une méthode, quand on perd, on perd beaucoup, je trouve. Et donc du coup, ça demande une attention, en effet, très très tendue, et c'est pour ça que c'est un spectacle très exigeant. C'est peut-être la limite du spectacle.
Fabienne Pascaud, sur ce Cap au pire.
Oui, c'est un spectacle exigeant, c'est vrai, mais en même temps assez hypnotique. Moi, je n'ai pas tout compris, parce que c'est vrai que ce Cap au pire est totalement énigmatique. Beckett s'y interroge sur l'inexprimable, sur l'inconsolable, comment on s'exprime, comment on dit l'indicible, enfin, tout, c'était ce que vous citiez au début. Donc, c'est très compliqué. Je l'avais vu avec Evelyne Didi, et qui, elle, bougeait beaucoup, avait beaucoup d'activités ménagères, curieusement, autour de ce texte. Et finalement, j'avais encore moins compris que avec l'immobilité absolue de Denis Lavant. Et en plus, quand on sait que Denis Lavant est un ancien danseur, un ancien acrobate plutôt, et qu'il a un corps d'une énergie, et ça se sent, la manière dont on sent qu'il pourrait tout à coup bouger, sauter, donne encore plus de poids à son immobilité. C'est vraiment une immobilité habitée. Et moi, quand je l'ai vu à Avignon. À Avignon, il ne levait la tête qu'à la fin. Donc, c'est rien. Mais tout à coup, on avait l'impression d'avoir une révélation, d'assister à un accouchement. Alors, exigeant, oui, Lucille, mais je trouve que finalement, si on peut se laisser porter par le fait même qu'on ne comprend pas tout et rentrer comme en méditation. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce spectacle.
Alors, la méthode Brianchon maintenant, Jean-Christophe.
J'ai bien aimé aussi. Après, faut reconnaître que pour un 25 décembre, c'est peut-être pas le...
Au moins, les choses sont claires. Cap au pire.
C'est l'anti-bonne nouvelle.
Voilà. Alors après, justement, moi, ne serait-ce que ce titre pourrait me donner envie d'y aller, même si je ne savais rien ni sur Beckett, ni sur Denis Lavant. En l'occurrence, c'est un auteur et un comédien que je tiens particulièrement en estime. Et surtout Denis Lavant, qui pourrait me faire déplacer n'importe où. Et en l'occurrence, il remplit... parfaitement ses promesses, puisque comme vous l'avez dit, aussi bien Fabienne que Lucille, il y a dans son statisme quelque chose de très très habité, de très violent finalement, qui va avec le texte, puisque dans ce dispositif il y a aussi quelque chose qui puisque Denis est j'aimerais bien
c'est
que
Noël.
Ce soit un ami.
Bon,
et voilà. C'est Noël, alors
c'est
je me l'offre
cadeau, voilà.
Je m'offre cette
bon, très bien
avec
allez.
Denis Lavant. il se trouve être à la frontière, il est sur une dalle lumineuse, mais seulement à cheval, entre guillemets, sur cette dalle, puisque la moitié de ses pieds sont sur la dalle et l'autre moitié dans l'obscurité. Et ça participe vraiment à faire comprendre la réalité de ce texte, qui est un texte qui est toujours à la frontière vers la chute du néant. On est toujours à deux doigts de basculer vers le pire et en même temps vers le meilleur, vers la rédemption et vers la mort. Et Denis Lavant arrive à incarner ça de manière parfaite, quasiment, avec une diction, une profondeur, un mouvement, comme vous le disiez, lui qui est pourtant habitué à tellement bouger, il s'est forcé à rester statique et à jouer cette partition, puisqu'il le dit lui-même, il a considéré ce texte, et il a considéré l'incarnation de ce texte comme devant être quelque chose qui doit être joué comme une partition de musique, quoi. Il se considère acteur instrumentiste, dit-il, et en l'occurrence c'est exactement ça. Il joue ce jeu, il joue cette frontière avec le néant de manière absolument remarquable.
Oui, c'est vrai. C'est une performance physique, hein. Il en parle aussi, Denis Lavant. Rester immobile comme cela, c'est une performance physique. Le corps est vraiment très éprouvé dans cette attitude-là. Alors, il se trouve qu'on a vu les uns et les autres le spectacle à des soirs différents, et j'imagine que que rien ne doit être plus différent que ce spectacle-là d'un soir à un autre. Et en même temps, il y a toujours le texte à la virgule parce que c'est extrêmement précis chez Denis Lavant. Et en même temps aussi, j'imagine que chaque spectateur doit avoir une perception du spectacle différente de celui qui est, ou celle qui est assis à côté de lui, autour de lui. Donc c'est un peu compliqué du coup de parler de ce spectacle. Moi, je suis comme Fabienne, je pense que la tension flottante, ça fait partie du intégrante du spectacle, parce que c'est l'écriture de Beckett aussi qui veut ça. Si on avait le livre en main, ce qui est fait pour, on s'arrêterait sur une phrase, on remonterait quelques lignes. Et je pense que dans le spectacle, moi, il y a des moments où il y a des phrases qui m'ont particulièrement attrapé. Du coup, je partais un petit peu dans mes pensées sur un segment. Et puis, où est-ce qu'on revient par une autre phrase, Jean-Christophe?
Ça n'empêche que c'est... Effectivement, il faut absolument réussir à se mettre dans cet état d'éveil, de semi-éveil et de flottement. Mais c'est pour autant très exigeant aussi, quoi. C'est pas tous les soirs qu'on peut parvenir à atteindre cet état-là.
Et ça, c'est beau aussi.
C'est une méditation, quoi.
C'est beau aussi, on en parlait, Lucille, comme dans le bureau, quand vous l'avez vu, le spectacle. C'est beau de voir des spectateurs... Tous les soirs, la salle est pleine, qui ont envie d'être là. Alors, il y a quelques départs, généralement, le soir, mais assez peu. La communauté théâtrale, elle existe pleinement, là, Lucille.
Oui, moi qui ai assez peu confiance en l'humanité en général.
Joyeux Noël.
Non, mais c'est vrai, ça m'a vraiment... En plus, moi, j'y suis allée une après-midi au Théâtre de l'Athénée, donc c'est un public particulier, et vraiment, les gens étaient captivés à tel point que personne n'osait bouger. Ça, c'est très étrange dans une salle quand il se passe ça. C'est une salle qui est minuscule, on est très très proche du coup de Denis Lavant. Et vraiment, je sentais que si je décroisais les jambes, peut-être j'allais me faire engueuler par Denis Lavant, flippant, donc on n'a pas envie.
Ce qui ne serait pas le cas.
Et alors, vraiment, mention particulière aussi pour la lumière, parce que on n'a pas beaucoup parlé de la mise en scène. Elle est minimale, mais c'est très beau. La lumière, c'est Catherine Verrette qui la réalise. Mmh. Et notamment, il y a un passage qui m'a beaucoup impressionné. Il est question dans le texte de trois motifs principaux qui sont des personnages, enfin, qui se creusent de plus en plus, mais qui sont quand même des silhouettes ou disons des formes de personnages. Et il y a un crâne qui devient vraiment plus que presque une orbite. Et au moment où, Denis Lavant évoque ce crâne qui devient une sorte de double orbite, la lumière se fixe sur son front, mais très délicatement, à tel point qu'on ne sait pas si c'est nous qui hallucinons ou si c'est vraiment le travail de la lumière. Et on voit les rides, je ne sais pas si vous avez en tête les rides de Denis Lavant, les rides de son front qui sont très creusées, vraiment des sillons. Et il devient lui-même ce crâne dont il est en train de parler, et c'est très très impressionnant. Ça, c'est vraiment le travail de la lumière pour le coup.
Ouais, et pour le coup, il faut qu'effectivement il soit exactement chaque soir au même endroit, et sans bouger. Effectivement, avec ses pieds qui entrent à peine sur la dalle, il raconte chaque soir. Ça commence là, dans ce carré de lumière, la façon dont il entre et dont il se pose sur ce carré de lumière. Alors c'est vrai que c'est aussi quand même intéressant, on va en parler la semaine prochaine, il y a Philippe Cobert qui joue dans la grande salle de la télé au même moment, on a deux seuls en scène qui sont, on verra ce qu'on en dira la semaine prochaine, qui sont quand même, qui sont aux antipodes et chacun dans une forme d'excellence qui est quand même, quand on aime le théâtre, on a envie de voir les deux, je pense, Fabienne Pascaud.
Ah oui, tout à fait, les deux spectacles sont aussi curieusement physiques parce que dans l'immobilité, il y a tellement de temps de contention de Denis Lavant et là on regarde Cobert, enfin on en reparlera, mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, et c'est ce que racontait Lucille, c'est que les spectateurs, le public, il y a vraiment une émotion commune pour ce spectacle-là. On est embrigadé dans la même aventure et on vient pour se laisser hanter par la langue de Beckett. Et ce spectacle-là fait sentir à merveille cette langue qui est, même si c'est désespéré, même si c'est pas très festif et pas très noélique, le fait que cette langue existe et que dans la plus absolue douleur, ça parle encore, comme dit Beckett, c'est quand même un signe de... C'est quand même une bonne nouvelle. Et on vient pour se laisser... C'est assez noir, mais c'est presque une expérience de ravissement, je trouve.
Oui, parce qu'on est tendu avec lui, il y a quelque chose...
Et ensemble.
Ensemble. Mmh. Je parle de communauté de théâtre, Jean-Christophe Briançon.
Finalement, c'est la messe, ça va très bien avec Noël.
Une autre forme de messe.
La messe de Noël, c'était hier.
Là, c'est la messe de Beckett.
la veillée en tout cas.
Jean-Christophe. Pour revenir sur cette forme d'exigence, je pense que moi il y a quelque chose qui m'a particulièrement frappé le soir où j'étais, c'est que c'est deux choses, c'est que déjà il y avait beaucoup de scolaires parce qu'il y a une classe qui est venue et une classe dans cette petite salle remplit rapidement la salle et les premières minutes les enfants qui devaient avoir 12-13 ans.
Ah oui, collège vraiment.
Peut-être 13-14, mais enfin ça allait pas plus loin.
Quatrième, troisième, quoi.
Exactement. Au tout début, ils ont pouffé de rire. Il y avait des gênes parce que forcément c'est quelque chose à quoi ils sont pas habitués. Voir ce comédien arriver pour dire quelque chose qui
personne n'est habitué. Alors imaginez au collège.
Ouais, mais bon, ils ont pas de a priori, ils ont pas encore de lien avec Beckett, donc ils comprennent pas que ça veut dire quelque chose. Enfin, au tout début, ils comprennent pas. Et justement, au bout de 5 minutes, finalement, le silence s'est fait et tous les enfants ont écouté religieusement, exactement comme les adultes. Et ensuite, à la fin du spectacle, il y a eu une discussion de bord de plateau avec Denis Lavant et Jacques Ozinski, le metteur en scène. Et il y avait derrière moi quelqu'un qui devait avoir mon âge, à peu près 30 ans, qui a pris la parole pour dire à Denis Lavant que sans lui, il ne serait jamais venu parce que il n'a aucun lien avec le théâtre et il n'avait même jamais entendu le nom de Beckett, a-t-il dit. Et donc il est venu pour voir Denis Lavant parce qu'il le connaissait par ses films. Et Denis Lavant incarne le texte à ce point, de manière à ce point magistrale que ce jeune homme a fini par réellement rentrer dans le texte. Et a fini, d'après ce qu'il dit, par tout comprendre. Ce qui me semble étonnant. Parce que, bon,
une épiphanie.
Peut-être une épiphanie. Mais justement, Denis Lavant, lui, a réellement compris, je crois. Il dit qu'il a fait un travail sur ce texte pendant 2 ans, a réellement tout le décortiqué dans tous les sens pour le comprendre. Et effectivement, ça sent et ça permet à des gens qui ne connaissent ni Beckett ni le théâtre de pouvoir comprendre ce texte, qui est quand même assez rare.
Ouais. Alors que nous, on n'est pas sûr d'avoir tout compris, mais c'est vrai que je ne suis pas retourné au texte depuis. Vous avez fait cette expérience, c'est comment, non ?
Il est très court en même
temps.
Oui,
non, mais c'est vrai, c'est juste que.
Bon. Mais pourquoi le théâtre, la magie, c'est aussi de ne pas comprendre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi.
Partir, revenir dans ce spectacle. Vous avez autre chose à dire, Lucille Comeau, dans votre belle feuille de notes? Non, ça y est. Bon, ben voilà, cap au pire, c'est la direction que nous indiquons. Samuel Beckett, on peut l'appeler Sam, si vous voulez. Jean-Christophe Briochon.
Denis.
Avec Denis, mise en scène de Jacques. C'est au Théâtre Louis. Bon, Jacques Ozinski, Denis Lavant, Samuel Beckett, c'est sûr, jusqu'au 14 janvier à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet. À suivre dans la dispute actrice et Singing in the Rain.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir au spectacle vivant avec la nouvelle création de Pascale Rambert, actrice présentée au Bouffe du Nord à Paris avant de partir en tournée en France. Texte. Mise en scène, scénographie, qui sont signées de l'ancien directeur du théâtre de Gennevilliers, pour ce spectacle qu'il avait d'abord écrit pour les acteurs du théâtre d'art de Moscou en 2015, même s'il n'y a finalement pas été joué. Donc c'est la véritable création de ce spectacle et c'est Marina Hans qui est l'actrice du titre dont la pièce raconte les derniers jours.
Pourquoi devez-vous toujours mettre votre souffrance en avant ? C'est moi qui vais mourir, pas vous ! C'est moi qui hurle de douleur, pas vous! Sortez, sortez! Je vais être seule, seule! Sortez! Je vais être avec Célia! Je vais être avec ma sœur! Sortez! Je suis fatiguée! Fatiguée! Fatiguée!
tous les souvenirs d'enfance en poussant des cris comme des petites filles. Donne-moi le déambulateur, ça va me tenir droit. Sois pas agressive.
Maman m'a dit que tu voulais me parler, je pensais que...
Ouais, tu penses. Tu penses beaucoup, Seigneur. J'ai fait tout ce chemin pour te voir. Tu veux que j'accroche une médaille à ta jolie blouse? Tu veux peut-être que je te rembourse le voyage? Il y a de l'argent là, sur le lit, prends-le. Pardon.
Pardon.
La douleur rend méchant. La douleur donne envie de tuer. Ah non!
Voilà pour ce, alors, long extrait des prises de son étant ce qu'on nous a donné, pardon, pour la qualité sonore, mais enfin, on aura entendu un petit peu de ce Actrice de Pascal Rambert que pour ma part, je n'ai pas encore vu, que j'ai lu. Voilà, c'est ce qui m'a un peu rattrapé. N'ayant pas dit beaucoup de bien des derniers spectacles de Pascal Rambert, je ne suis pas allé encore, mais je n'ai qu'à vous écouter pour savoir si je vais prendre des places. Fabienne Pascaud, tiens, pour commencer.
Bien, moi, j'ai été déçue par ce spectacle. Je n'avais déjà pas aimé la dernière pièce de Pascal Rambert, Interview au Vieux Colombier, mais elle était au moins jouée par des acteurs qu'on comprenait. Et le problème qui vient aussi de la bonne volonté de Pascal Rambert, c'est comme vous l'avez dit, il a écrit cette pièce qui célèbre le théâtre, qui célèbre l'actrice en train de mourir, qui célèbre toute la magie théâtrale, il l'a écrit dans un univers russe, puisque c'était au départ pour le théâtre d'art de Moscou. Mais il a voulu faire une sorte, avec beaucoup d'ambition, une sorte de spectacle monde, parce que Pascal Rambert est un de nos auteurs qui se transporte le mieux à l'étranger, qui est beaucoup traduit. Clôture de l'amour, ça a été un succès phénoménal. Du coup, il a des acteurs russes, il a des acteurs de nationalités différentes. Et moi, j'ai perdu beaucoup de ce spectacle parce que je trouve qu'il est tout simplement pas très bien joué. Alors, je me reproche à moi-même de ne pas insister sur la beauté du spectacle, parce que quand on arrive, c'est vrai qu'on a une espèce de saisissement, parce que sur scène, enfin, il a un peu imité Pina Bausch aussi dans Elken qui recouvrait le plateau de fleurs. Sur scène, sur la scène des Bouffes du Nord, il y a une centaine de vases. Donc ça, c'est assez saisissant, c'est beau. On voit un lit d'hôpital, au milieu Marina Hans, qui est donc cette actrice à l'agonie, et ses parents qui somnolent, les pauvres ne sont pas très bons non plus comme acteurs, qui somnolent à côté. Et Marina Hans, tout à coup, elle va parler dans le noir, elle a un rêve, c'est une actrice qui est adulée à Moscou, la plus grande des actrices, qui a joué la mouette, et elle parle, et cette voix dans le noir, Marina Hans, il faut reconnaître que je l'ai trouvée quand même assez resplendissante. Elle a des accents claudéliens, elle a des accents tchécoviens, et elle est magnifique, elle ose des choses, c'est une actrice qui est perturbée par des problèmes de foi, FOI, des problèmes avec sa famille, avec sa sœur, avec ses enfants, avec son mari. Et Marina Hans, elle y va, quoi. C'est une actrice qui est vraiment prodigieuse. Mais moi, j'ai un problème avec ce texte de Rambert, qui est un salmigondi de Claudel, de tout et n'importe quoi, avec une ambition démesurée, avec une prétention, avec une complaisance. Et je trouve que on parlait de Beckett tout à l'heure, mais il y a une économie, même si c'est toujours sur le même thème, si ça rappelle toujours la même chose, qui fait qu'on arrive quand même à se concentrer, même si on ne comprend pas. Là, chez Pascal Rambert, je comprends grosso modo ce dont il parle, la mort d'une actrice célébrée par les siens et par le public, mais je me perds, je me paume et je trouve ça très vaseux.
Il y a beaucoup de vases, c'est normal. Jean-Christophe Brianchon.
On a entendu des meilleurs de votre part.
Oui, mais bon. Mais bon. Il y a eu le réveillon hier, je vous rappelle.
Voilà, on est un peu fatigué, c'est la fin de l'année. Mais je suis assez...
Parce que j'hésitais à repartir sur le texte, on comprend tellement tout, enfin c'est le problème de Pascal Rambert depuis quelques spectacles, c'est tellement justement...
On comprend tout et on comprend rien.
Ouais, enfin, et on se dit, oui, non, on se dit surtout à quoi bon, on avait compris déjà de quoi il veut nous parler.
Bah, c'est un peu le problème, effectivement, c'est que, oui, passer les 30 premières minutes, ou pour ceux qui n'ont pas déjà vu du Pascal Rambert, parce que ceux qui ont déjà vu auront déjà compris même avant le début du spectacle. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vrai que passer les 30 premières minutes, ça ne fait que se répéter.
C'est assez beau quand même quand ça arrive.
C'est très beau.
On est saisi quand on arrive.
C'est très beau et effectivement, en plus, Marina Hans est... elle est très très forte, elle est phénoménale je trouve. Et mais ça à la rigueur on le savait déjà exactement comme on savait que Pascal Rambert avait parfois certaines tendances à être lourd dans ce qu'il rapporte. Mais bon là quand même il y a une certaine beauté dans sa croyance dans le théâtre, dans ce cri d'une jeune femme qui veut pas mourir. Il y a quelque chose de beau. Une fois passé la beauté de cette croyance là, parce que je trouve que c'est important quand même d'avoir des metteurs en scène, d'avoir affaire à des metteurs en scène dont on sent qu'ils font pas seulement des spectacles pour divertir un public, mais qu'ils font des spectacles parce qu'ils sont persuadés de la nécessité de leur médium, en tout cas pas forcément de ce qu'ils vont dire.
Honnêtement, moi j'y crois même plus.
Je sais pas, parce que
c'est dit d'une manière
tellement baroque qu'effectivement.
Voilà la nécessité et entre guillemets la pause.
C'est des clichés quand même, ce qu'il
raconte. Oui, mais toujours est-il qu'il l'affirme. Et alors, peut-être qu'on peut remettre en question son honnêteté, sa sincérité dans sa démarche. Mais en tout cas, je pense que c'est utile de faire entendre aux gens, utile ou en tout cas, oui, agréable de voir qu'il y a des gens qui font entendre à un public la nécessité d'un médium artistique. Et là, en l'occurrence, lui, c'est exactement là-dedans qu'il se met. Après, il le fait de manière tellement lourde et risible, parce que quand même, la fin du spectacle, et objectivement, on va pas en dire plus que ça, mais bon, les phrases font rire, les mots font rire, alors que ils ne sont évidemment pas là pour ça. Quand il nous dit la vie s'arrêtera, mais le théâtre ne s'arrêtera jamais, avec un air un petit peu affecté comme ça. Bon, c'est dramatique d'écrire
mais
ça.
Mais c'est vrai.
Mais alors, factuellement, il n'y a pas de problème. On va mourir et le théâtre continuera. Mais est-ce que ça vaut la peine de le dire de cette manière-là, déguisé en fleur, en se tenant la main, avec une larme au coin de l'œil? Je suis pas certain. Tout ça pour terminer, je crois que la dernière phrase de ce spectacle, c'est quelque chose comme « Vie, pourquoi es-tu si cruel ?» Bon,
trois fois.
Une fois déjà.
Mais
c'est
vrai aussi.
Vous défendez bien le spectacle, bon. Bravo. Parce qu'il s'agit pas. On n'est pas là pour dire du mal d'un spectacle. Hein. Il se trouve que vous êtes tous les trois et on n'a pas encore.
Ça très très niais, personnellement. Je suis complètement d'accord avec Jean-Christophe.
Non, mais vous avez entendu autour de vous quelques personnes en dire du bien. Donc vous en êtes un peu la porte-parole.
Extatique.
Voilà. Alors, on n'a pas encore entendu Lucille Como, mais.
Oui, alors moi je trouve que c'est catastrophique, honnêtement, comme spectacle, et je sauverais même pas ce que vous sauvez, Jean-Christophe, parce que moi, justement, le côté inclusion, déjà j'ai du mal avec l'inclusion dans les pièces de théâtre d'un discours sur le théâtre, je trouve que c'est surfait, c'est vraiment le syndrome mouette, quoi, pour moi. Déjà j'ai du mal avec cette pièce-là.
Mais Shakespeare l'a bien fait, quand même.
Oui, mais voilà, mais on peut pas le refaire, il y a un moment, et surtout un discours qui est pas un discours, qui est un discours un peu mystique sur le théâtre, c'est la vie c'est le théâtre, comment faire pour vivre sans théâtre. Vraiment, j'ai pas envie d'entendre ça, je trouve ça extrêmement artificiel. Et là, en fait, la forme même de ce spectacle, de l'écriture de Pascal Rambert, c'est une suite de leçons. C'est-à-dire qu'on nous fait la leçon sur divers sujets qui tournent tous autour de vastes sujets tels que la vie, la mort et le théâtre. Donc le théâtre, c'est fait pour faire
sortir les larmes.
Et les
coques de bruyère aussi.
L'alcoolisme, c'est la vie. La science et la foi, c'est la même chose. Une sorte de succession de leçons pseudo-philosophiques sur l'art du théâtre. Honnêtement, c'est au-delà du niais, c'est presque bête parfois, vraiment.
Oui, mais il y a quand même,
c'est quand même problématique de faire un spectacle avec uniquement ça. Je sais pas pourquoi c'est problématique, en fait.
Malgré le fait que ce soit un peu niais, il y a quand même, je trouve que dans la posture de cette comédienne, de cette actrice, il y a quelque chose de de touchant et de vrai, là encore, malheureusement ce n'est que factuel, mais il y a quelque chose de vrai dans cette posture, cette femme qui se trouve être un petit peu à cheval entre une Berma Proustienne et un Johnny Hallyday de 2017, quoi. C'est un espèce de truc où...
Déjà, c'est une espèce, et puis on n'emploie pas ce terme ici.
Alors je ne le ferai plus en 2018, mais en tout cas c'est je trouve que oui, il y a quand même une réalité, enfin dans cette posture du comédien de théâtre qui se trouve être avoir une mission quasiment potentiellement métaphysique au sein d'une société, et en même temps se trouve être en 2017 réduit à une sorte d'idole. C'est pour ça que je parlais de Johnny Hallyday, quelque chose, voilà, oui, une forme d'idole médiatique qui se voit même retirer sa propre mort, quoi. Et donc il parvient quand même à le montrer et à le manifester de manière assez juste et assez belle. En plus, encore une fois, incarné par Marina Hans, qui le fait particulièrement bien.
Alors ça, c'est vrai que Marina Hans, elle est
impressionnante. Ce personnage est vraiment intéressant et
non,
juste
pas le personnage. Elle est intéressante. Elle est intéressante, c'est une excellente actrice. C'est d'autant plus impressionnant que son texte n'a aucun intérêt, que son rôle n'est pas intéressant. Et elle arrive quand même à faire quelque chose. Et là, pour le coup, vraiment, c'est peut-être le seul point positif de ce spectacle. C'est que moi, je l'avais jamais vu sur une scène de théâtre, Marina Hans, je l'avais vu qu'au cinéma et vraiment j'ai été très impressionnée par sa performance. Les autres acteurs à côté sont très faibles. Il y a Audrey Bonnet qui a un rôle un peu je sais même pas vraiment à quoi elle sert d'ailleurs.
Ah mais c'est la partie politique du
oui,
spectacle.
Mais alors elle est totalement
dénonciation du capitalisme.
La sœur de l'actrice.
Ah oui, alors là, la
Ravelo, etc. Mais alors ce qui est pas inintéressant, c'est que le premier discours qu'elle porte, justement, ce personnage-là, est un discours qui va un peu à l'encontre des leçons un peu mystiques sur ce que c'est le théâtre. Elle dit à un moment donné, c'est pas si compliqué que ça, au fond, t'es sur une scène et puis moi, ce que je fais, c'est beaucoup plus compliqué parce que je suis une femme d'affaires, c'est comme ça que j'ai conquis ma liberté. Enfin, c'est assez intéressant, en fait, d'avoir ce discours-là. On se dit, ah, tiens, peut-être que Pascal Rambert, il va quand même créer du conflit sur sa scène, et notamment sur ces thèmes-là qui lui sont chers. Et en fait, non, parce que Audrey Bonnet, son personnage, il est immédiatement rallié à la grande cause du théâtre et finalement, il n'y a même pas ça, il n'y a même pas un petit sens de l'autocritique ou du conflit, en fait. Moi, je trouve qu'une pièce de théâtre où il n'y a pas de conflit, où il n'y a pas de rapport de force et où il y a une succession de leçons théoriques, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est une leçon, c'est un cours éventuellement. Et en plus, il n'est même pas intéressant, ce cours.
Bon, Fabienne, vous vouliez dire, Fabienne Pascaud ?
Il aurait pu avoir une sorte de conflit entre Audrey Bonnet, entre les deux sœurs,
oui,
par exemple.
Mais il est totalement escamoté. Ça dure 5 minutes.
Et puis, il y a eu une volonté de raconter l'Europe, l'Est, la Russie. Mais bon, non, mais
avec
c'est
des
raté
clichés,
pour moi, c'est raté
des
avec
clichés
des clichés
sur la Russie. Oui.
Jean-Christophe Boyarchand.
Un des problèmes, peut-être justement, dans ce manque de conflictualité, si ce mot existe, c'est dans son désir, enfin dans ce qui me semble être le désir de Pascal Rambert de faire, enfin de ne pas refaire ce qu'il a déjà fait de nombreuses fois, à savoir justement une pièce uniquement conflictuelle entre deux personnes et de tenter de faire une pièce quasiment chorale. Mais alors, du coup, le conflit entre les deux sœurs.
Tchekhovienne, je suis sûre qu'entre Tchekhov et Claudel, il a balancé.
Oui, on ne sait pas ce qu'il a choisi.
Un peu des deux.
Le saut dans le vide.
Mais du coup, là, tout se dilue. Tout se dilue pour essayer de faire aller la pièce au-delà de ce conflit entre les sœurs et accessoirement se dilue avec aussi une inégalité des jeux et des comédiens qui est vraiment frappante.
Vous avez surtout parlé, ce qui est logique, de Marianne Hans, un peu d'Audrey Bonnet. Il y a quand même beaucoup de monde sur le plateau. Comment ça vit, comment ça joue tout ça, Jean-Christophe Brianchon?
Il y a beaucoup de monde et entre autres, un comédien par exemple. Alors c'est peut-être ce qui m'a semblé le plus intéressant chez les comédiens, c'est il y a la présence sur le plateau d'un des comédiens de Stadium de Mohamed El Khatib, qui est un comédien, enfin qui n'est pas comme, enfin qui de fait est comédien ce soir-là, mais en tout cas dont ce n'est pas le métier. Et bon, alors ça crée évidemment une inégalité des jeux qui est frappante et qui peut devenir comique malheureusement, mais en même temps ça c'est intéressant aussi dans ce que ça montre en tout cas dans ce que ça illustre de la possibilité des palettes de la vie d'un comédien, enfin de ce que c'est que d'être comédien. Voilà, ça peut être aussi bien être Marina Hans qu'être ce personnage s'appelle Alexander, me semble-t-il. Ça peut aussi bien être l'un et l'autre. Donc bon, pourquoi pas. Après ça crie beaucoup, ça vit de manière un petit peu assistance respiratoire.
C'est beau dans l'absolu, mais on comprend pas grand chose quand même. Les acteurs russes, moi j'ai pas bien compris. Alors, c'est aussi les clichés de l'acteur russe, ivre mort.
On les comprend mal, mais il y a une corporalité quand même. Ils sont là, quoi. Ils sont présents. Il y a une présence physique qui est quand même importante, imposante.
Si on comprend pas le texte, c'est un peu compliqué. Vous me disiez ça aussi, Lucille, que c'est pas toujours très évident.
Il y a un problème de compréhension et surtout, il y a un énorme problème dans le sens aussi, je pense, de ce qu'il a voulu faire. C'est-à-dire qu'il a voulu quand même créer une famille. Or, ce n'est pas une famille. On ne peut pas y croire une seule seconde. Il y a une telle disparité des jeux. Ils disent tellement pas le texte de la même manière.
C'est plus ambitieux encore que la famille, ensemble. C'est le monde.
Oui, mais bon, oui, j'entends bien. Mais je pense qu'il a quand même voulu aussi faire quelque chose d'un peu émouvant sur vraiment la mort d'une femme devant ses enfants, ses parents, ce qui est aussi complètement raté. C'est pas du tout une pièce dans laquelle on ressent une quelconque émotion. Moi, je trouve que sa mort, qui est mise en scène de manière pour le coup assez spectaculaire, puisqu'il y a des cris, il y a sa fille qui est une jeune fille, qui s'accroche à elle, qui ne veut pas la quitter, et on sait qu'elle va mourir. Je pense qu'il a voulu quand même émouvoir le spectateur un peu au premier degré en montrant la mort de quelqu'un sur une scène. Et de ce point de vue-là, encore une fois, c'est un échec. Ça ne procure aucune émotion parce qu'il n'a pas réussi à créer des liens entre ses acteurs.
Il essaye de mettre un peu de Mozart quand même pour voilà
c'est donc
Lucile, pour vous c'est vraiment carton plein, il y a carton vide là. Et ému ou pas, ou jamais ému, Fabienne, pendant la représentation?
Ému la première demi-heure. Ému par d'abord par la beauté plastique, hein, c'est aussi un plasticien, Pascal Rambert, et puis par Marina Hans au départ, qui est vraiment une de ces actrices comme on les rêve, capable de jouer Phèdre, capable de tout jouer prouesse, donc vraiment ému par sa, par son coffre, par sa présence, par sa lumière. Et puis après, très vite, plus ému du tout.
Bonjour Christophe.
Un peu endormi même.
Oui, en change, j'ose à peine vous demander si vous avez été ému.
Non,
par par Marina Hans, vous aussi.
Voilà, par Marina Hans. Et malgré tout, j'ai trouvé d'ailleurs, j'y avais pas pensé, mais que les jeunes comédiens qui jouent ses enfants, en l'occurrence sa fille, sont plutôt justes et sont plutôt dans leur rôle émouvant, justement. Peut-être qu'à cet instant-là, moi, j'ai peut-être ressenti quelque chose. Après, il y a une émotion, effectivement, qui naît de la plasticité, de la scénographie, qui est évidente. Une émotion qui ne peut que exister à un instant, mais un court instant.
Bon, il faut dire que les Baumes du Nord, c'est quand même aussi un très bel endroit et que c'est quand même plus facile d'y réussir un spectacle visuellement beau. On verra ce qu'il en sera pour la tournée. Pour l'heure, actrice, texte, mise en scène, scénographie, Pascal Rambert, ça se donne jusqu'au 30 décembre au Bouffe du Nord. Puis en tournée, grande tournée, 11 et 12 janvier à Annecy, à Bonlieu, la scène nationale d'Annecy. 16 et 17 janvier au Parvis à Tarbes. Du 24 janvier au 4 février au Théâtre National de Strasbourg. 8 et 9 février à l'Apostrophe Cergy-Pontoise. Du 13 au 17 février au Théâtre National de Bretagne, à Rennes, du 6 au 10 mars à Lyon, au Célestin, du 21 au 23 mars à la Comédie de Clermont-Ferrand, 27-28 mars à la scène nationale de Phoenix à Valenciennes, et enfin 30 mars et 1er avril à Amsterdam à l'occasion d'un festival théâtral.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Allez, on va peut-être être plus dans l'ambiance Noël, cette fois avec le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, la reprise de Singing in the Rain dans la mise en scène de Robert Carsen, qui avait été créé au printemps 2015 au Châtelet. Ce spectacle s'est installé jusqu'au 11 janvier dans la nef du Grand Palais, qui abrite pour l'occasion 2400 places. On reparlera du lieu, évidemment, qui a son importance. On rappelle qu'il s'agit de l'adaptation de la comédie musicale co-réalisée par Stanley Donen et Gene Kelly, qui était sortie en 1952, dont l'action se situe à Hollywood, dans les années 20, au moment du passage du cinéma muet au cinéma parlant. Et on va suivre plus précisément un trio de jeunes gens artistes, deux hommes et une femme.
Good morning, we've talked the whole night through.
Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon shine through.
Good morning to you.
Great to stay up late.
Good morning to you.
Are we
just a sippy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Well, say good morning.
Good morning.
The rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonsoir.
Buenos dias.
Buenos dias.
Buongiorno.
Buongiorno.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Good morning.
Vous continuez à chanter, Jean-Christophe Brianchon ?
Si vous me le demandez.
Non,
puis
peut-être
les claquettes ?
Pas.
Je peux en faire, mais après l'émission.
Bon, est-ce que c'est votre culture, ça, Jean-Christophe
Alors,
Brianchon ?
Je vois bien que vous me faites commencer parce que vous savez d'ores et déjà
non,
ce que je vais
mais
répondre.
Pas du tout, parce qu'on n'a jamais parlé comédie musicale ensemble, on n'a jamais trouvé à faire une émission
non,
consacrée
vrai.
À une comédie musicale et je ne sais pas du tout.
Alors en l'occurrence, non, ce n'est pas du tout ma culture, bien que j'en sois curieux. Mais
vous connaissez le film, enfin vous connaissez au sens où vous l'avez vu.
Oui, oui, j'ai vu le film, et puis bon, je suis client du Théâtre du Châtelet depuis quelques années. Donc,
ah bon,
voilà,
donc quand même.
J'ai vu, mais j'ai vu parce qu'il faut voir, on va dire. Mais c'est vraiment pas ma culture et pas ma tasse de thé. Là, en l'occurrence, en plus, il y a quand même... bon, tout ça est accessoire, mais c'est vrai qu'il y a dans cette manifestation au Grand Palais quelque chose. Alors là, pour le coup, de très Noël, hein, parce que ouais. C'est vraiment, c'est festif et tout est fait pour que ce soit, tout est conçu pour que ce soit vraiment un moment de retrouvailles familiales où. Avec un long entracte pendant lequel on peut venir consommer et dépenser de l'argent à la buvette.
Non, mais déjà, on peut venir avant, pour faire des cours de claquettes, pour acheter du pop-corn et autres.
Donc, c'est un grand événement.
Vous avez quelque chose contre ?
Non, mais
c'est un peu de. On sent un peu de rejet.
Non, mais j'ai du mal à me retrouver dans ces. Voilà, je me sens un peu perdu, moi, quand je vais dans ces endroits-là. Mais bon, ça ne regarde que moi. Mais c'est vrai que c'est. Je trouve ça un peu compliqué de trouver cette. Pour moi, au théâtre, enfin, quand on va voir du spectacle vivant, il y a quelque chose de l'ordre de la communion, quoi.
On peut communier à.
C'est mon petit côté Pascal Rambert.
On peut communier à 2400. C'est ce que j'aime dans cette émission. On est sur Cap au Pire et on est sur Singing in the Rain.
Je trouve ça plus compliqué d'être sur la bonne note, quoi, on va dire. Et bon, après, pour ce qui est du spectacle en lui-même, là, il y a eu pour moi, on va pas refaire l'histoire, hein, je pense que tout le monde la connaît, l'histoire de Singing in the Rain, mais sur le plan, de ces représentations-là au Grand Palais, je trouve qu'il y a un problème manifeste qui est celui du lieu, aussi beau puisse-t-il être, parce qu'effectivement, être sous cette verrière, c'est quand même un moment vraiment agréable et qu'on n'oublie pas. Mais malgré tout, il y a quand même, je trouve, un problème de sonorisation, un problème de sonorisation qui joue sur l'ambiance parce que ça crée une sorte de flottement.
Il y a un décalage du coup.
Il y a
entre les débuts, les premiers rangs, la fin. Non mais c'est vrai que
j'ai eu la chance d'être bien placé puisqu'on y va pour faire cette émission. Mais peut-être que quand on est au fond, il y a un décalage. Mais enfin, je ne pense pas manifestement vu. Étant donné la production que c'est et d'après ce qu'on se disait avant, le prix que ça a coûté, je pense que quand même, au dernier rang, on entend correctement. Mais malgré ça, il y a quand même il y a quelque chose qui se crée pas du coup dans l'ambiance. J'ai trouvé, il y a comme une sorte de flottement, d'autant plus que les rires de la salle sont assez dilués eux-mêmes dans cet espace qui se rajoute en plus en surimpression avec les rires en boîte qui sont enregistrés, enfin des rires en boîte qui sont des rires en boîte pensés comme étant dans la comédie musicale. C'est pas rajouté pour nous faire croire qu'on rit, mais c'est dans la comédie musicale, il y a des rires en boîte. Et ces rires en surimpression de nos rires dans l'espèce de flottement de cet immense espace au milieu de cette musique qu'on entend peu et malheureusement qu'on ne voit pas puisque l'orchestre est en fosse, mais alors en fosse vraiment bien en fosse quoi.
Sous.
Donc tout est un petit peu dilué, l'ambiance flotte. J'aurais réellement préféré le voir au théâtre du Châtelet et réellement préféré voir comme on se disait avec une collègue de l'émission, voir peut-être plus de claquettes, en entendre plus, en voir plus. Là malheureusement, je sais pas, j'étais en manque un petit peu de Singing in the Rain quoi, de vraiment de
claquettes.
D'ambiance, de claquettes, de chants, de rires. merde, il y a un truc. Voilà, là, il n'y avait pas. J'ai pas trouvé ça.
Donc alors, je peut-être on reste un instant et on va faire un tour de table sur le lieu et sur le fait de jouer là. On parlera après du travail, peut-être quand même, de Robert Carsen, des musiciens, des danseurs, des chanteurs. Lucille Como, le lieu.
Oui, alors c'est un lieu magnifique. C'est vrai que quand on lève la tête et qu'on voit la nef, la grande coupole du Grand Palais, c'est magnifique. Mais en effet, ça ne fonctionne pas très bien pour des raisons sonores et même visuelles, parce que du coup, ça pollue un petit peu. Ça pollue, c'est pas le mot. Mais ça perturbe un petit peu l'appréhension du spectacle, parce que c'est un spectacle extrêmement riche visuellement aussi, avec des effets de mise en abîme, puisqu'il y a évidemment le cinéma est présent, il y a un écran, ça c'est très bien fait. Le rapport avec le cinéma, on en parlera peut-être après. Donc c'est vrai que le lieu perturbe un petit peu la vision qu'on peut avoir du spectacle, et par ailleurs, en effet, le son, parce que l'orchestre est superbe. Enfin, moi j'avais vu 42nd Street l'année dernière avec le même orchestre, j'avais presque trouvé que c'était trop bon et que du coup il y avait un côté artificiel. Là, le côté artificiel, il est d'autant plus manifeste qu'en effet on n'entend que parler au parleur, alors que moi j'étais très proche de la fosse. Donc ça, c'est un peu dommage. Et il y a cette question des claquettes qui est fondamentale, parce que le fameux morceau de bravoure Singing in the Rain, par exemple, Don Le Coude arrive sur scène et il n'a pas de chaussures de claquettes. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais quelle horreur! J'adore Singing in the Rain. Voilà, il est en chaussons. Alors, en plus, le problème, c'est que la chorégraphie n'est pas vraiment revue. Il fait quand même à peu près la même chorégraphie.
Moi, j'ai entendu
il
des
est
claquettes.
En non.
Non, non, il est en chaussons,
il est
danse,
en chaussons,
ouais.
Petit chausson de danse. Et du coup, il y a aussi un problème musical, c'est-à-dire que les claquettes, elles sont là aussi.
Bah oui, pour donner,
donner
des notes.
Oui, puis c'est un vrai instrument à part entière à des moments où il ne chante pas, parce qu'il y a quand même des moments où
c'est un jeu avec
cette scène-là.
L'orchestre.
Et donc, du coup, là, c'est un petit peu gênant. Bah, vous avez eu la chance. Non, il y a très très peu de claquettes. Il y a un morceau, il y a un passage de groupe, et on sait, moi, en ayant vu cette même troupe, donc dans 42nd Street, ils savent le faire. Je pense que s'il y a aussi peu de claquettes, c'est à cause du lieu, parce que c'est trop compliqué à sonoriser et qu'on n'aurait pas entendu non sonorisé. Donc c'est un petit peu décevant de ce point de vue-là. Après, la mise en scène de Robert Carsen...
On y vient, je parlais du lieu, juste Fabienne, alors elle entend les claquettes. Donc,
oui, ça,
vous avez bien aimé le Grand Palais,
vous
entendez, Fabienne Pascaud.
Non, mais moi j'ai vu les deux, bien entendu, j'ai vu... Alors c'est vrai qu'il y a un côté écrin au Châtelet qui était magnifique, mais là c'est une autre sorte de plaisir de cette salle. Moi je trouve que je m'étais pas rendu compte que c'était aussi énorme que ça, mais il y a quand même un espace grand partagé et ça fait partie du plaisir de la fête. Moi, les claquettes, elles étaient tellement dans ma tête que je les ai entendues, vous voyez. Donc, j'ai pas souffert, mais j'ai peut-être l'oreille moins fine que vous tous. J'ai pas trop souffert des problèmes de sonorisation. Moi, j'ai
bonne
vraiment
idée que d'aller, parce qu'on rappelle que je l'ai pas dit que le théâtre du Châtelet est en travaux et que ça va durer encore longtemps et que du coup,
bien
c'est
sûr,
une façon
quand on
d'exister
a un spectacle,
hors les murs.
Bien sûr, quand on a un spectacle qui est une telle réussite dans la mise en scène et une comédie musicale comme savait les concocter Jean-Luc Choplin, j'espère qu'il en fera encore là où il ira. Mais bien sûr, pourquoi bouder son plaisir et ne pas y aller, bien sûr.
Alors, revenons sur ce plaisir. Du coup, vous vouliez enchaîner sur la mise en scène de Robert Carsen,
qui est
toujours très présent, puisqu'on parlera bientôt de La Tempête qu'il vient de créer à la Comédie Française, enfin sa mise en scène vient d'être créée à la Comédie Française. Là, c'est le Robert Carsen festif, meneur de revue. Hein. Rappelons qu'il a quand même commencé à Euro Disney en faisant le spectacle de Buffalo Bill à l'entrée du parc, à la demande de Jean-Luc Choplin qui travaillait chez Disney à ce moment-là. Non, mais il y a ça
c'est
côté nord-américain.
L'ambiance que vous décriviez,
qui est capable
très
de faire,
familial,
qui est capable de faire une mise en scène de Capriccio de Strauss. Sublimissime à l'Opéra de Paris et qui est capable d'emmener tout son monde aussi. Est-ce que c'est le cas là, Lucille?
Oui, alors bon, c'est très très fidèle quand même au film. Moi j'ai reconnu même des éléments à la fois de décor, notamment ces studios dans lesquels l'action se passe principalement. Il y a même des éléments de mobilier qui sont les mêmes que dans le film. Hein. Par exemple, le fameux duo entre Cathy et Don Le Coude, où elle est en haut d'une sorte d'échelle avec un projecteur qui fait un faux soleil couchant. On a vraiment à l'identique la même scène. Alors il y a quelque chose qui frappe immédiatement en contraste avec le film, ce sont les couleurs, parce qu'il n'y a pas de couleurs. Tous les costumes sont en noir et blanc ou en gris. Alors, je ne suis pas absolument certaine que ce soit une bonne idée.
Vous avez vu des couleurs, Jean-Christophe.
À part à la fin, il y a pas de couleurs.
Il y a tellement de variations dans le noir et blanc, on voit des couleurs.
Non, c'est pour le coup, non. Tous les costumes
les claquettes et les couleurs.
Il y a deux séquences
de rêve
de groupe où là une au milieu, une à la fin, où les costumes sont...
Mais c'est d'autant plus en contraste, je pense que c'est voulu. Voilà. Bon, là, pour le coup, sur le noir et blanc, je vois ce qu'il a voulu faire, parce que, en plus, ça fait référence à l'industrie cinématographique, à ce que c'est que le film. Il y a beaucoup de films aussi dans le spectacle. Je suis pas sûre, certaines... J'étais un peu déçue, pour le coup. Bon, c'est peut-être parce que j'ai trop le film en tête, mais je trouve que c'est un peu froid, un peu cérébral, ça va pas très bien avec ce qui se passe. Sinon, par ailleurs, le jeu avec le cinéma, pour le coup, est très réussi. Il y a notamment ce moment extrêmement jouissif où il est question du passé artistique de Don Lockwood, donc qui est le héros, qui se produisait dans des cabarets avec son comparse. Tout ça est montré à l'écran. On les voit danser à l'écran et là ils contournent l'écran et on les voit exactement dans les mêmes costumes continuer la chorégraphie sur une scène. Là c'est vraiment la magie de ce spectacle là. C'est-à-dire vraiment il y a un effet rose pourpre du Caire, des danseurs qui sortent de l'écran pour vraiment danser devant nous. En fait rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller parce que non mais c'est vrai, c'est vraiment profondément jouissif.
Fayenne Pascoe, sous taille de Robert Carsen.
Oui, on a l'impression que Robert Carsen, comme le disait Lucille, il possède toute la grammaire de la magie du spectacle, des jeux d'illusions. Et le spectacle, c'est une sorte d'emboîtage de façon gigogne ou poupée russe. Il y a le film dans le film, le film dans la pièce, la pièce dans la pièce. Il y a du musical, il y a du cabaret. Et donc, il jongle avec tous ces genres, avec une maestria qui est vraiment... jubilatoire. Là, moi, pour moi, c'est un sans faute, cette mise en scène qui est éminemment sophistiquée et tout en gardant un côté populaire. C'est à la fois proche et lointain. Enfin, il y a eu, c'est aérien dans ce qu'il arrive à faire. Les comédiens, je les ai trouvés très bons. Je trouve, moi, je les ai entendus. Ils ont joué pour moi des claquettes. Ils ont dansé, donc ils sont formidables. Je trouve qu'ils chantent bien et j'ai été assez sensible contrairement à Lucille, à ce noir et blanc très stylisé. C'est très stylisé. C'est très pensé, la mise en scène, et en même temps, il arrive à créer des éclats de vie. C'est pour ça que le noir et blanc, moi, j'ai fini par voir tous les costumes en couleur.
C'est un magicien. Ah ouais, en fait, elle a vu le film.
Oui, oui. En fait, Jean-Christophe Briançon.
Il y avait Jim Kelly ou pas?
Je crois.
Moi, j'aurais peut-être simplement aimé, mais alors c'est le genre qui veut ça, mais que ce soit moins séquencé, quoi. Il y a quand même quelque chose, évidemment, de l'ordre du, comme vous le disiez, de la revue, du
succession de numéros.
Succession de numéros. Mais bon, c'est le genre qui veut ça, et c'est donc c'est finalement ça correspond, ça coche toutes les cases du genre, et ça le fait très bien. Après, moi, justement, pour ce qui est des costumes et des décors de...
Alors, costume Anthony Powell, je l'ai pas dit, décor Tim Atley, j'ai pas dit non plus que c'était Stephen Mayer qui a assuré à nouveau la chorégraphie, Gareth Valentine, la direction musicale.
Voilà. Je trouve qu'il y a quand même, effectivement, sur le plan de la confection, quoi, de l'artisanat, je sais pas si on peut en parler d'artisanat pour une machine pareille, mais bon, quand même.
C'est vraiment de l'artisanat.
Il y a vraiment un travail remarquable sur les panneaux qui constituent les décors devant lesquels les comédiens jouent. Certains d'entre eux, je trouve, sont vraiment remarquables. Des panneaux qui sont des photographies comme imprimé en 3D qui nous donne une impression de profondeur, c'est impressionnant. Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais vraiment jamais vu ça sur une scène. Et les costumes, malgré tout, malgré ce que vous
malgré
dites,
leur absence de couleur.
Justement, aux instants où ils sont colorés, alors c'est peut-être mon côté premier degré, mais quand il y a de la couleur, ça me plaît. Et là, là, je sais pas. Là, il y a dans ces costumes-là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une magie qui se faisait. Et ces costumes sont vraiment somptueux à ces instants-là. Dans ces deux scènes de danse en groupe. Il y a vraiment quelque chose de magistral dans ces costumes qui sont.
Lucille, comment ?
Il faut dire un petit mot quand même des chanteurs parce qu'ils sont danseurs, ils sont aussi chanteurs et Dan Burton qui vraiment a le rôle principal est impressionnant. Enfin, c'est une voix, mais c'est un peu comme l'orchestre, c'est tellement parfait. Il n'y a aucune fausseté, aucun essoufflement. Enfin, il y a quelque chose de ces voix-là, des voix de musical.
Mais c'est pas du playback.
Qui sont vraiment très impressionnantes, presque trop impressionnante et il y a un côté toujours un peu artificiel, ça me laisse un peu
à l'impression d'écouter un disque et de...
Oui, c'est parfait, tous les vibratos sont au bon endroit. Enfin, après, y a à la limite, m'intéressait plus son compagnon, déjà il m'intéresse aussi plus dans le film, donc qui est Daniel Crossley, qui interprète donc Cosmo, que je sentais un peu plus fragile au début, notamment dans cette espèce de prouesse à la fois dansée et vocale qu'est Make Them Laugh, qui est un moment incroyable parce qu'il chante réinvente très rapidement, la diction est très, je pense, très difficile, en faisant des pirouettes, en faisant semblant de se prendre des portes, et en traversant la scène de long en large pendant quand même 2-3 minutes. Je crois que d'ailleurs le comédien Daniel O'Connor avait été malade, avait dû arrêter le tournage parce que c'était complètement c'était éprouvant. Trop. Et on sent un peu plus de fragilité, peut-être un peu plus de souffle dans la voix. C'est presque plus prenant
il
et plus
humain.
Émouvant. Voilà, exactement.
Bon. Monique Young, tant que vous y êtes.
Oui, bon, elle est superbe. Elle était déjà dans 42nd Street, la précédente production. Elle a une voix vraiment aérienne. Et puis pour le coup, je la préfère encore... En danse, je trouve qu'elle est une très très bonne danseuse.
Bon, ben voilà.
Il y a tout le climat hollywoodien aussi. On pense à Le Beau-Tive, Une étoile aînée, tout ça. Moi, j'ai un faible pour la vieille diva du muet, là. C'est celle que je préfère. Ouais. La pauvre.
La pauvre.
Linda.
Bon, Singing in the Rain, si vous arrivez à avoir des places, parce que même s'il y en a 2400 chaque soir, je crois que c'est très très demandé. Donc, cette mise en scène de Robert Carsen qui se joue jusqu'au 11 janvier dans la nef du Grand Palais à Paris. Avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir. Non, c'est pas hier au soir, c'était vendredi, pour dire. Faut en connaître la réponse. Quelle était la question, Grégoire ?
Quel représentant de l'art dit naïf a édifié dans son jardin un palais idéal ? Et la réponse était Ferdinand Cheval.
Et Grégoire Difior va nous donner la question pour le jeu de ce soir qui fait gagner des invitations pour l'exposition de Camille Henrot au Palais de Tokyo à Paris jusqu'au 7 janvier. La question ?
Comment s'appelle l'art japonais de la composition florale ?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique avec Emmanuel Giuliani, Lucille Como et Guillaume Thion. Nous parlerons du conte Horry de Rossini, mis en scène par Denis Podalydès, direction Louis Langrée en ce moment à l'Opéra Comique, du DVD de Péléas et Mélisande de Debussy, mis en scène par Benjamin Lazare, dirigé par Maxime Pascal, et d'un disque Bach hors note, Amandine Beyer et Lee Inconiti.